Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Chères auditrices, chers auditeurs, chères lectrices, chers lecteurs, bonjour et c'est parti pour un nouveau numéro de Lecture par tous, l'émission proposée par les collecteurs. Alors, nous avons la semaine dernière fait ce que nous appelons nos bazars littéraires. On avait fait un bazar littéraire post-confinement puisque les lecteurs qui constituent, lecteurs et lectrices qui constituent notre association, ont profité de cette période pour faire baisser leurs piles de livres à lire. Ce sont toujours des piles chez nos lecteurs et lectrices. Ce sont des piles qui menacent dangereusement de tomber tellement elles s'élèvent parfois. Alors, donc nous allons continuer, puisqu'on a parlé de quelques titres, mais pas de beaucoup. Aujourd'hui, avec moi, deux collectrices de livres. Hélène Honora. Bonjour Hélène.
Bonjour Marc.
Et Françoise Jarousse. Bonjour Françoise.
Bonjour Marc.
Voilà, alors vous allez nous présenter vos coups de cœur ou vos découvertes ou redécouvertes de, on va pas dire de l'été, puisque ça remonte au mois de mars, c'était pas encore l'été, de cette longue période où vous avez, j'imagine, dévoré plein de livres, entre autres choses. On a toujours d'autres choses à faire. Alors, qui veut commencer? Hélène, tu étais là la dernière fois, donc on va commencer avec Françoise. Alors, Françoise, tu vas nous parler, je vois le premier livre qui est sur ta petite pile, un éditeur que l'on aime bien et qu'on va se débrouiller pour avoir un entretien conséquent avec lui, Benoît Vérille, le patron des éditions La Contre-Allée. Alors, un nouveau titre paru à La Contre-Allée dont tu vas nous parler.
Oui, c'est le seul titre paru à la rentrée. À cause du confinement, et c'est L'Arrachée Belle. C'est un premier... Alors, on pourrait dire premier roman, ça n'est pas vraiment un roman. C'est un premier texte de Lou Darsan. Et c'est un texte qui est magnifique. Alors, c'est publié dans la collection... une collection que j'aime beaucoup de La Contre-Allée, qui s'appelle La Sentinelle, et qui parle de tous les problèmes liés à notre époque. Et Lou Darsan, dans ce roman, elle met en scène une jeune femme, sans doute à peu près d'une trentaine d'années, qui est bien installée dans la vie, mais qui est très mal dans cette vie. Elle, c'est une femme choyée, elle vit avec un homme. Et elle est très mal dans sa peau, elle est très mal dans le rôle que cet homme lui a assigné, c'est-à-dire un petit peu de femme-objet. Et ce mal-être est extrêmement grave, puisque elle a l'impression, quand elle est dans son bain, qu'elle va disparaître par le trou de la baignoire. Et elle est véritablement en danger de mort, même si cette mort est symbolique. Elle ne supporte pas, en fait, le rôle que la société lui assigne à travers cet homme qui est pourtant un homme aimant. Et, en fait, pour ne pas mourir, comme quelqu'un qui va se noyer et met le pied au fond de la piscine pour revenir à la surface, elle décide de partir dans un espèce d'élan primitif de survie. Et elle part... D'abord en voiture, et puis peu à peu, elle va finir par abandonner sa voiture, elle finit en autostop, et puis elle finit à pied. Et ça va être une espèce de reconquête d'elle-même, et cette reconquête d'elle-même ne va être possible que par une communion avec la nature. Et ceci se fait, donc le thème est extrêmement fin, Il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est un roman, mais peu importe. C'est cette communion et cette possibilité de renaissance, petit à petit, dans la nature, comme un retour aux origines qui nous est raconté là, et dans un langage qui est un langage extrêmement poétique, extrêmement fin, extrêmement sensuel, hein, tout est en sensation. C'est un livre bon, dans lequel on peut ne pas entrer, hein, parce que c'est un univers particulier, mais si on y entre, c'est quelque chose, c'est une découverte magnifique. Hein. Si vous voulez, pour vous donner juste une petite idée, je vais vous lire deux, trois phrases qui donnent bien le ton. Hein. Il y a un moment qui est un moment crucial dans le livre où elle se retrouve dans une grotte et c'est comme si elle retournait dans le ventre des origines. Et là, elle se met dans une espèce de transe à danser. Et voilà ce que dit l'auteur. « Elle est femme qui danse sous la montagne. La danse s'étend sans trêve à toutes les profondeurs de la grotte en une spirale infinie qui décolle les lambeaux de peur, pulvérise les pierres du plexus, dénoue les entrailles. Une chose se brise, une se résorbe, une encore éclot. Ce qui fourmille se rassemble et s'écoule. » Voilà.
Oui, on entend bien dans ce que tu viens de nous lire la dimension poétique de l'écriture. Et puis, ce que tu en racontes, je dis oui, c'est en même temps bien le travail de l'éditeur avec cette collection La Sentinelle, qui est la grosse collection des éditions La Contre-Allée, qui nous parle de questions d'actualité. Ce que tu viens d'évoquer, peut-être certaines personnes, dans ces derniers mois, ont traversé aussi ce genre de période, ce genre d'interrogation. Donc on est bien dans des questions complètement d'actualité. Donc on rappelle le titre, l'auteur.
Alors l'auteur c'est Lou Darsan, c'est son premier ouvrage et le titre c'est L'Arrachée Belle.
Aux éditions La Contre-Allée. Alors Hélène, tu nous as amené de la poésie, de recueil de poésie. Alors lève le mystère sur cette poésie.
Il y a effectivement un mystère parce que l'autrice, pour l'un, on voit Jeannine Tesson et pour l'autre, Jeanne T. Mais en fait, c'est la même personne donc, qui a publié ces deux recueils. Cette année, les deux sont de 2020, aux éditions Chèvrefeuille étoilée.
C'est quand même plus transparent que Romain Gary et Émile Ajar.
Tout à fait. Donc, dans l'ordre chronologique, le premier s'appelle « Icare, mon amour ». Ce sont des textes courts, mais qui s'enchaînent. C'est effectivement un chant d'amour, très attachant, mais avec perversité. J'ai choisi plutôt un ou deux petits textes qui soulignent les effets délétères de l'amour. Alors, le premier s'intitule d'ailleurs « Ne m'aimez pas, surtout pas. Ceux qui m'ont aimé ne m'ont pas fait de bien. J'ai accepté qu'ils me cuisinent, me rabotent, me poncent, me travaillent. Et ainsi cuisiner, raboter, poncer, travailler, je leur ai plu. Je n'étais plus. » Donc, de l'effet, là encore, d'un certain amour qui existe, mais qui peut-être transforme son objet. Et puis, deuxième petit texte, là encore, qui fait vraiment image. Pour moi, je vois le prestidigitateur sur la scène de Music Hall avec sa boîte oblongue, là, son cercueil dans lequel entre une jolie fille et qu'il entreprend de
découper, bien entendu,
de scier en deux, voilà, après quoi la jolie fille sort intacte de la boîte. Et le petit texte dit « Tout perd son sens, du sang coule de la boîte du magicien où j'étais entré en riant. »
Il a raté son coup. Il y a un petit côté haïku dans ce texte que tu viens de nous...
C'est vrai.
Dans la brièveté, la concision, et un certain humour. Donc ça, c'est des extraits du premier recueil.
Qui s'appelle « Icare, mon amour ».
Alors, l'autre recueil, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors, l'autre recueil s'appelle, à juste titre, « Renaître ». Et on voit sur la couverture un phénix, l'oiseau de la Renaissance. Là encore, une autre façon de renaître. Et c'est en filigrane l'histoire d'un malheur. Donc, annonce du malheur. Il dit... Il y a un malheur. Sois courageuse. Un malheur ? Quel malheur ? Ils sont tous là, les miens, alignés, prêts pour le jeu de massacre. Qui ? Qui a été touché ? Dis le nom. Incendie. Incendie ? Il n'y a pas de malheur, alors. Au départ, on pense que, évidemment, le malheur, sinon unique, du moins le pire, c'est la perte d'un être proche, d'un être cher. Donc on vous dit « sois courageuse » et aussitôt, on imagine que quelqu'un manque. Donc, incendie, bon, il n'y a pas de malheur. Alors, en fait, il y en a quand même un, très profond. Et tout le petit recueil est dédié à cet incendie qui a emporté la maison de Janine et à la façon dont on peut y survivre. Et un poème vers la fin dit « J'ai souvent voulu fuir la maison, aller survivre ailleurs. Je me demandais « Qu'est-ce que j'emporte ?» Et c'était mes textes, mon ordinateur, rien d'autre. Pas de collier, pas de robe. Je suis restée. C'est ma maison qui s'est envolée. Tout ce que je possède tient dans ma tête. Mes textes sont retournés dans ma seule mémoire. J'ai peur qu'ils s'y asphyxient. Je ne pourrai en ressusciter que quelques-uns. Les plus forts survivront. Peut-être. Mais l'un des derniers poèmes est quand même... Une note d'espoir, écrire a été pour moi la fin des renoncements. Je ne renoncerai pas à l'écriture.
Ben voilà, c'est, merci. C'est un beau prélude, ce que tu viens de nous proposer, à une prochaine émission que nous allons faire autour de Fahrenheit 451, de Bradbury, puisque c'est des mêmes questions qu'il s'agit.
Et aux autodafés, aux relations voilà. Entre le texte et l'incendie. Et ça m'a fait penser à un best-seller de la rentrée, Yoga, d'Emmanuel Carrère, où il raconte qu'on vient, le tirer d'une retraite où normalement personne ne peut le déranger. Il est dans un groupe, on vient le chercher et tout le temps, il fait nuit, il pleut, et tout le temps où on l'accompagne jusqu'au pavillon des responsables, il se dit si on vient me chercher alors que normalement je suis hors d'atteinte et de communication, c'est que quelqu'un est mort à la maison.
D'accord. Alors, merci. Donc, Janine Tesson ou Jeanne T, selon voilà. les volumes. Alors, maintenant, on va passer à des biographies. Il se trouve, coïncidence, que vous avez amené plusieurs ouvrages à dimension biographique ou autobiographique. Alors, Françoise, nous allons commencer avec une biographie, là, on va dire, de Caroline Dance, qui s'appelle...
Trencadis.
Alors, de quoi s'agit-il ou de qui s'agit-il ?
Alors, pour être très franche, là, je suis en train de le lire. Hein. Donc, je n'ai pas tout découvert, mais je vais quand même pouvoir vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit en fait de la biographie de Nikit Saint-Phal, hein, dont tout le monde connaît les grosses bonnes femmes très colorées, les nanas. Et ce titre, moi, m'a attirée parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, trencadis. En fait, c'est un mot catalan qui veut dire mosaïque brisée. Et cela a un sens parce que, d'une part, Caroline Dance, elle reconstitue l'histoire de Nikit Saint-Phal en assemblant un certain nombre de morceaux, comme par exemple au Parc Güell, hein, qui a été une rencontre très importante pour Nikit Saint-Phal, où elle a compris que même si, étant jeune, notre vie était brisée en mille morceaux, on pouvait la reconstituer et en faire quelque chose de cohérent.
Alors, tu évoques le parc Güell, rappelons pour ceux à qui ce n'est pas familier, oui, qu'il s'agit d'un parc de Barcelone.
Voilà, le fameux parc de, comment il s'appelle déjà ?
Gaudi. De Gaudi. Effectivement, voilà. Le décor est fait d'éclats de mosaïques. Voilà.
Et donc, la vie de Niki de Saint-Phal est reconstituée comme si c'était une mosaïque avec différents moments de sa vie. Et cela se traduit même dans le style, parce qu'elle utilise à la fois des poèmes, quelquefois même des poèmes qui ressemblent à des calligrammes, et puis des moments de narration. Et elle raconte, alors je ne vais pas en dire plus, parce que d'une part je n'ai pas terminé, et puis il faut vraiment le découvrir, c'est une histoire extrêmement douloureuse que celle de Niki de Saint-Phal, qui a eu une enfance particulièrement, nous dirons avec beaucoup de guillemets, compliquée, et qui a su faire preuve tout au long de sa vie d'une possibilité de résilience extraordinaire. Et donc, c'est pour cela que l'auteur s'est intéressé à Niki de Saint-Phal, et elle le fait, l'écriture elle-même, enfin, ce que j'en ai lu jusqu'à présent, c'est magnifique. Donc c'est un roman là qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est pas très étonnant hein, que ce soit Kidam hein, qui ait publié ce livre, parce que c'est un livre, enfin ça n'est pas une biographie linéaire, c'est quelque chose d'un peu particulier, et cette maison d'édition et l'éditeur cherchent toujours un petit peu, comme à la contre-allée, des livres qui sont non pas à la marge, mais que d'autres éditeurs n'auraient pas le courage de publier.
Voilà. Je rappelle à nos auditeurs que nous avions eu un échange avec Pascal Arnaud, donc le patron des éditions Kidam, et si vous allez sur les podcasts de l'émission, vous devriez retrouver sans problème cette émission. Voilà, donc aux éditions Kidam, Carol Dens, Trencadis, donc une biographie romancée, on pourrait dire, ou un roman biographique, je ne sais pas, peu importe,
concernant Niki de Saint-Phal. Un voyage au cœur de la vie de Niki de Saint-Phal.
Voilà, ah, c'est joliment dit. Niki de Saint-Phal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, un artiste qui a défrayé un petit peu et qui est devenu une figure majeure de l'art. Je ne vais pas dire contemporain, puisque c'était il y a quelques années en arrière, mais
une artiste hors norme.
Hors norme et qui a pu dérouter, notamment par l'image de la femme très particulière qu'elle peut donner.
Dont on peut voir les œuvres à Paris, en plein air.
Voilà. Alors, Hélène, tu nous proposes deux biographies, une autobiographie et une biographie. Voilà. Alors là, plus classique, ce n'est pas romancé. D'après ce que j'ai compris. Et alors, on va être très British. Voilà.
Alors, le premier ouvrage, c'est une biographie de Daphné du Maurier, immense auteur populaire dont Hitchcock a adapté plusieurs œuvres, Les oiseaux, Rebecca.
Et surtout Rebecca.
L'auberge de la Jamaïque. Et le deuxième, c'est le deuxième tome de l'autobiographie de David Lodge, donc effectivement, toujours très, très british.
Deux écrivains très, très populaires en Angleterre.
Voilà, mais populaires au bon sens du terme, parce que...
Oui, beaucoup lus, on va dire.
Exactement, des écrivains de talent et qui ne sont pas des écrivains de la facilité, mais souvent la critique considère que parce qu'ils ont du succès, c'est la facilité. Et Daphné du Maurier, donc cette biographie s'intitule Manderley Forever, puisque Manderley, c'était le manoir
de Rebecca,
qui est pratiquement le personnage dans Rebecca.
On peut dire que c'est le personnage principal, quasiment. Oui,
absolument. Et ce manoir, donc il y a ce thème dont on parlait la semaine dernière aussi à propos de chez soi de l'essayiste Mona Chollet, il y a ce thème de la maison, de l'abri, de la fascination, et ici de Manderley dans le roman qui s'appelle Menabili dans la réalité. Alors c'est une maison qui était abandonnée et dont Daphné du Maurier est tombée amoureuse. Et pendant des années, elle a rêvé d'y habiter. Elle a emmené ses filles voir cette maison, cette grande maison grise qui semble oubliée dans un nuage rouge de rhododendron. Et puis ses filles la regardent, elle caresse les murs, elle appuie ses lèvres et ses joues contre la façade, nous raconte Tatiana de Ronet, comme si elle l'embrassait. Cette maison s'appelle Menabili et ça fait 20 ans que personne n'y habite. Alors, Daphné du Maurier elle-même finira par avoir gain de cause, elle habitera 25 ans, elle ne pourra pas s'approprier complètement la maison, mais elle y habitera 25 ans et elle disait elle-même, en 1943, donc c'est une maison qui se trouve dans les Cornouailles. J'ai un peu honte de l'admettre, mais je crois que je préfère Mena, donc le petit nom de Menabili, aux gens. Voilà. Alors, elle était fascinée par cette demeure, elle l'a beaucoup transformée avec l'accord des propriétaires, mais elle n'a jamais pu se l'approprier. Et sa biographe, Tatiana de Ronet, qui est elle-même un écrivain très populaire, ou une écrivaine très populaire, est fascinée quand elle écrit la biographie, elle veut absolument y aller, elle cherche sur Google Maps, elle arrive près de la maison, et la maison elle-même avait un tel rôle dans les romans que ça pose des problèmes au moment de la traduction, et de la traduction en français par exemple, parce que l'édition anglaise et l'édition française ne sont pas exactement fidèles. L'édition française n'est pas tout à fait fidèle au texte anglais. On sait bien qu'un traducteur prend des libertés, mais là, Tatiana de Ronet, la biographe, se dit « Est-ce que Daphné du Maurier a comparé cette édition avec son texte original ? Est-ce qu'elle a constaté à quel point ses descriptions avaient été tronquées ?» Puisque Tatiana de Ronet écrit elle aussi en anglais et en français. J'avais découvert que la traductrice avait escamoté ça et là les réminiscences de l'héroïne, l'obsession de Rebecca et ses pensées essaimées de rêverie, tout l'héritage de Kiki. Kiki qui était le grand-père de Daphné du Maurier et qui était l'auteur de Trilby, que Henry James avait poussé à écrire et qui a accouché d'un livre immensément populaire, une pièce je crois qui s'appelait Trilby. Le rythme du livre s'en trouvait modifié, en partie amputé de l'atmosphère que Daphné avait ciselée avec tant de soin.
Oui, quand tu dis ça, quelle est l'année de publication de Rebecca ?
Alors, je crois que Rebecca, ça doit être 1938.
20 ou 30, j'allais dire, oui, voilà.
Voilà. 38, oui. L'apparition 38. De Rebecca en 1938, d'accord. Menabili exerce un magnétisme puissant, voilà. Tout le monde veut aller voir le manoir.
On était peut-être à une époque où il n'y avait pas la même rigueur dans les traductions qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que tu évoques, voilà, on prend des raccourcis, on est plus dans les adaptations que dans des traductions fidèles.
La traductrice avait coupé, simplement.
Oui. C'est des pratiques qui heurteraient beaucoup plus aujourd'hui, je pense.
Qui heurtent toujours, oui, je pense, quelle que soit l'époque.
Voilà. Alors voilà, dès que j'ai envie de dire, découvrez... Daphné du Maurier, hein, c'est, bon, même si c'est un petit peu daté comme littérature, c'est une grande littérature.
Ah ouais,
voilà. Alors, si vous connaissez le film d'Hitchcock, voilà, qui est un sacré film quand même, même s'il y a des libertés par rapport au roman, hein, grand film, le premier film américain d'Hitchcock avec un grand chef directeur artistique qui était Cedric Gibbons. C'est un film absolument extraordinaire avec Ingrid Bergman, entre autres. Voilà. Donc, si vous avez aimé le film, allez vous plonger dans le roman, c'est une autre dimension, et après plongez-vous dans la biographie de Daphné du Maurier. Alors, auteur, alors on rappelle Tatiana de Ronet,
et c'est Manderley Forever.
Manderley Forever, c'est aux éditions, une coédition Albin Michel, Héloïse d'Ormesson. Alors, David Lodge, auteur très populaire, voilà, comme on le disait tout à l'heure, hein. Plus récent que Daphné du Maurier.
Oui, mais il est octogénaire maintenant, David Lodge.
Il a beaucoup publié.
Donc c'est quand même aussi une autre époque, mais ils ont en commun cette fascination quand même pour l'abri, le refuge, le domicile, la famille aussi. Et d'ailleurs, Lodge a écrit quelque chose qui s'appelle « Hors de l'abri ». Ils ont quand même ce besoin de se protéger, y compris de la critique. Parce que quand on lit leur biographie, là c'est l'autobiographie, le deuxième tome de l'autobiographie de Lodge qui s'appelle « La chance de l'écrivain » chez Rivage, on se rend compte à quel point ils redoutaient, d'abord à quel point ils intégraient les événements de leur vie personnelle dans leur littérature, quoi qu'on en dise, l'auteur compte et la vie de l'auteur compte, et on se rend compte à quel point ils redoutaient la critique. Et alors, les problèmes de traduction, lui est très sensible aussi, Lodge, à la qualité des traductions. Il dit « Susumu Takagi, qui enseignait l'anglais à l'université de Tokyo, s'était présenté dans un courrier quelques années auparavant comme étant le traducteur de « Changement de décor », l'un des livres très, très populaires de Lodge, joignant une liste de questions à propos du sens des mots et d'expressions dans l'anglais du texte, comme « Why France », le col en V, moi j'avoue que je ne connaissais pas, hein, et « A bit of spare », un petit à côté, un adultère, qu'il trouvait déroutant. Je comprends. Je réponds toujours aux questions des traducteurs, car j'ai tout intérêt à ce que leur travail soit précis, mais ma correspondance en la matière avec Susumu a été particulièrement abondante. » Donc, traducteur, là, contrairement à la traductrice de Tatiana de Daphné du Maurier, très méticuleux et allant jusqu'à poser des questions pour éclaircir le sens des mots.
Et voilà. Donc, David Lodge, il a publié plusieurs livres sur l'écriture, sur la vie d'écrivain,
oui,
sur le travail de l'écrivain.
Dans les coulisses du roman, voilà. L'art de la fiction. Ce n'est pas seulement un romancier à succès, c'est un universitaire et un enseignant de littérature.
Voilà. Et ce que tu évoques sur la traduction de l'anglais, donc le volume s'appelle « La chance de l'écrivain » aux éditions Rivage.
Deuxième tome de son autobiographie.
J'ai envie de rappeler, de démonter peut-être une idée que certains auditeurs peuvent avoir, que l'anglais serait une langue facile à traduire. L'anglais est une langue très difficile à traduire en français, parce que c'est une structure complètement différente. L'anglais a une rapidité, une capacité à prendre des raccourcis, à construire des métaphores que les anglophones comprennent, mais à restituer en français. Très compliqué. Donc, c'est pas du tout une langue facile à traduire. Michel Volkovitch, en entretien, qui a été professeur d'anglais, il ne fait pas que du grec, de temps en temps, analyse des traductions de l'anglais. Et oui, c'est vraiment très compliqué à traduire. Voilà, eh bien, merci à toutes les deux. On va terminer cette émission en parlant de deux de nos libraires qu'on aime bien. La librairie L'Opuscule, parce que vous savez que les libraires, maintenant, peuvent de nouveau organiser des rencontres. Donc, si vous nous écoutez le jeudi, si c'est vendredi ou samedi, ce sera trop tard, mais si vous nous écoutez jeudi, ce soir, vous avez à la librairie L'Opuscule une écrivaine locale de polar, Armel Malavalon, qui viendra présenter son dernier roman. Et mon ordinateur s'est mis en veille, donc j'ai plus le titre en tête, c'est dommage. Mais vous allez sur Internet et vous trouverez sur le site L'Opuscule de la librairie L'Opuscule, vous trouverez tous les détails, ça doit être à 19h comme d'habitude. Donc ça c'est ce soir, jeudi. Et puis une autre librairie qu'on aime bien, c'est la Géosphère. Et la Géosphère reçoit, j'allais dire, un habitué, un écrivain qu'elle a déjà reçu, Colin Niel, hein, qui a écrit nombreux romans policiers qui se passent autour de la Guyane. Voilà, son nouvel opus qui paraît. Et Colin Niel sera samedi 19 à la Géosphère. Alors, pas à la Géosphère, c'est dans la salle Lacordaire, qui est à quelques pas de la librairie. Généralement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place, donc éventuellement, passez un petit coup de fil à la Géosphère pour annoncer votre venue, qu'il y ait des places pour tout le monde. Voilà. Merci Hélène Honora, merci Françoise Jarousse, merci Bruno Bertrand à la technique et à très bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.
Merci Marc.
Lecture
merci
par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.